Bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on approfondit des sujets de société, on discute, on dialogue, hein, on essaie de réfléchir à haute voix sur des enjeux qui nous touchent ici dans la MRC Maria-Chapdelaine et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on va parler d'information. Comment on s'informe? C'est quoi le travail d'un journaliste? Où est-ce qu'on va chercher l'information, désinformation? Est-ce que vous vous informez sur les réseaux sociaux? On va jaser de tout ça. Et avec moi, j'ai un spécialiste de l'information, M. Serge Tremblay, journaliste, éditorialiste au Nouvel-Écho.
Par la bande, éditorialiste un peu, chroniqueur à mes heures.
Chroniqueur à tes heures. Et Simon Trottier. Simon, qui est un gars qui est humoriste, oui, mais qui a plein d'autres habiletés, et un gars qui s'informe beaucoup, qui a travaillé aussi dans les écoles, hein, tu étais enseignant.
Oui,
tu as vu aussi les jeunes, comment ils s'informent, comment... Fait qu'on on va essayer d'avoir une discussion là-dessus. Donc, premièrement, vous vous informez où, les gars?
Moi, je m'informe plus sur le web, bien que je prêche pour le journal papier, évidemment.
Ouais.
Je m'informe davantage sur le web avec la presse et Radio-Canada, principalement.
Principalement. Toi, Simon?
La même chose quand même. Je parle de la presse, Le Devoir, Radio-Canada. Souvent, c'est mes sources que je me dis j'ai moins besoin d'auto-vérifier. Là. Mais oui, ça passe beaucoup par le partage d'articles. Puis les réseaux sociaux, oui, mais l'Internet aussi. Là,
mais tu t'informes aussi sur les réseaux sociaux?
Ben oui, oui, ça peut, parce que moi j'ai beaucoup d'amis, pas juste humoristes, mais dans l'actualité, des amis qui travaillent en télévision, des choses comme ça, qui partagent souvent des choses très pertinentes, tu sais, donc je me fie à certaines personnes que lorsqu'ils partagent la chose, mais je me fie, des fois je peux me faire avoir aussi,
Mais
les réseaux sociaux sont un gros vecteur d'information pour moi, par les partages de connaissances.
Puis si tu vois quelque chose partagé, est-ce que tu te poses des questions, tu sais, de dire, comme sur les réseaux sociaux, est-ce que tu vas valider avec d'autres sources? Ben, c'est ça qu'on devrait faire.
Moi, c'est ce que j'essaie de faire parce que, bon, c'est facile de tomber dans le piège. Des fois, tu te fais que te faire présenter une photo. Je me souviens, il y en a une qui a couru plus tôt cet été quand il y avait des grandes sécheresses en Europe. Là, il y avait une photo d'une rivière française quelconque, là, puis ça avait l'air d'être l'enfer. Mais en réalité, ce n'était qu'un petit affluent à côté. En tout cas, bref, il y avait une fausse information qui circulait. Puis si tu prenais pas la peine d'aller voir, ben si tu verrais que c'est vraiment ça, ben tu gobais l'information telle quelle, puis merci, bonsoir, tu sais.
Il y en a énormément. Moi, j'avais vu pendant le convoi des camionneurs qu'il y a eu à Ottawa sous peu, il y avait des photos pour dire « Regardez combien on est nombreux ». Puis moi, je voyais des gens d'ici, je nommerais pas personne, partager ça et tout ça. Et finalement, c'était une photo de la parade lorsque les Raptors ont gagné la coupe, je sais pas le nom de la coupe dans la NBA, là, j'allais dire la coupe Stanley, ça n'a aucun rapport.
La coupe du basket.
Je me suis mal informé, il y a quelqu'un qui m'a dit que le basket, c'était la coupe Stanley, je l'ai pris pour acquis. Mais pour ça, pour dire que c'était partagé, tu sais. Les gens disent, regardez comment on est en Ottawa. Puis là, après ça, il y a quelqu'un qui avait mis un rond, on voyait la tour du CN, tu sais.
Ouais.
Fait que, tu sais, il y en a qui prennent ça. C'était quand même assez facile de le voir. Mais ça a été partagé énormément par des gens qui blaguaient pas. Là. Regardez comment on est nombreux, les gens sont nombreux. Tu fais, OK. Fait que ça peut être aussi simple que ça. Imagine quand l'information est bien tronquée, à quel point on peut se faire avoir. Parce que ça, c'était grosso modo, tu sais, quelqu'un qui regardait moindrement une minute. Mais moi, pour répondre à ta question, avant de partager. Là, je vais souvent m'assurer de valider. Si je fais juste le lire, puis tu sais, pour en jaser, tout ça, là, je vais peut-être moins être consciencieux, mais pour m'être fait avoir une fois ou deux, avant de partager sur mon mur, de dire je suis d'accord avec ça et je veux que les gens le voient, je me donne un devoir de dire, ou bien peut-être d'appeler un ami, t'as-tu lu ça, qu'il en pense quoi, ou je me donne ce devoir-là, parce que quand tu le partages, c'est comme d'appuyer un peu plus que de dire seulement je l'ai vu passer.
Ouais. On voit, là, je voyais les statistiques, là, j'ai fait la formation du CQMI, là, du Centre québécois d'éducation aux médias d'information, puis il y avait une statistique qui m'a vraiment touché, c'est que 60% des partages, c'est des articles qui n'ont pas été ouverts. Donc, on se fie juste sur un gros titre, une photo. Et là, ça amène quelque chose. C'est que des fois, on va voir une information, on va la partager parce que ça vient un peu conforter nos positions. Parce que quand ça ne vient pas les conforter, on est très, très, très critique rapidement. Je me rappelle Jeff Yates, qui avait des décrypteurs, qui avait, en conférence, il expliquait qu'il avait partagé un article où il avait écrit « Boire 4 verres de vin par jour, c'est bon pour la santé ». Et là, si tu cliquais sur l'article pour l'ouvrir, c'était écrit « S'il vous plaît, ne partagez pas cet article, c'est de la fausse information ». Et il y avait un partage pendant plusieurs semaines au rythme de 300 partages à l'heure au Québec. Donc, les gens font « Hein, ouais, du vin, hein, ouais, ouais, je peux boire du vin ». Donc, ça vient te conforter à quelque part.
Ben oui.
Puis ça, ça amène les gens à mal s'informer ou à venir même douter des médias. Parce qu'on voit de plus en plus ça.
Oui,
là. Les gens, ils font… quand on parle de complotisme, on vient à douter des médias d'information. Mais toi, ton travail est complexe. Là. Tu peux pas juste penser une affaire, prendre quelqu'un dit quelque chose puis le publier. Là. C'est quoi le travail d'un journaliste en aval?
Il y a tout un spectre. Hein. D'abord, t'as de l'information que je qualifierais de base ou au quotidien, ou bon, ça, tu peux traiter ça sur le coin de la table, entre parenthèses, puis ça se fait assez bien.
Dans le sens, c'est des faits.
Le festival du Bleuet revient avec sa 60e édition. Bon, ben écoute, j'ai pas besoin de faire une vérification, etc. Mais à l'autre bout du spectre, le journaliste d'enquête, que moi, je peux pas faire faute de temps et de ressources, mais que tu vois dans des émissions comme Enquête, comme JE, où eux là, vont colliger des tas de données, souvent avec la loi d'accès à l'information, puis là, ils vont aller confronter des individus, chercher des témoignages, puis c'est ça qui donne des reportages souvent qui punchent le plus. Puis entre ces deux extrêmes-là, ben t'as les petits dossiers que tu peux faire, et là, bon, ben c'est correct. Des fois, t'es obligé de travailler avec des gens, puis il faut que tu prennes ce qu'ils vont dire comme du cash, entre parenthèses, comme disent les... Sois prudent un peu, tu sais. Moi, ce que j'aime, c'est je veux des données dans un premier temps, et après ça, je veux les appuyer sur quelqu'un qui va commenter quelque chose.
Ouais.
Et vice-versa.
Parce que des données, c'est la science, il y a du pragmatisme
exact.
Là-dedans.
Et si je ne peux pas avoir de données, parce que des fois, ça peut arriver qu'on parle d'un sujet qui n'est rien d'autre qu'une perception jusqu'à certains points, mais dans ce cas-là, on va essayer d'avoir plus d'interlocuteurs qui vont pouvoir soit se valider l'un l'autre ou offrir des points de vue différents sur la chose. Parce que le but, c'est aussi d'offrir une information qui va montrer, autant que faire se peut, les deux revers de la médaille.
Comment est-ce que tu nuances bien? Exemple, tu dois avoir une page Facebook versus le professionnel. Lorsque toi, Serge, tu décides en tant que Serge et non pas en tant que journaliste d'avoir une opinion sur quelque chose, est-ce que...
Je n'ai pas d'opinion sur rien.
OK, c'est le journaliste qui a désormais dit non, mais est-ce que donc tu t'amuses tes opinions pour juste... Tu dis que tu n'as pas ce que
c'est. J'ai pas d'opinion sur rien, c'est une façon un peu à la blague de le dire, mais depuis que j'ai fait du journalisme, j'ai vraiment fait un trait là-dessus. C'est-à-dire que ça va être extrêmement rare que tu vas voir sur mes médias sociaux que je vais partager quelque chose qui pourrait ressembler à une opinion. Je dis pas que c'est jamais arrivé, mais ça va être très, très rare. Mais tu sais, je m'astreins aussi à ne pas m'impliquer dans rien. Des fois, ça m'aurait tenté d'aller, c'est juste un petit CA quelque part, ou tu sais, juste pour dire que je m'implique, mais ça prend pas grand-chose des fois pour avoir un petit conflit d'intérêt. Puis l'apparence de conflit d'intérêt est aussi problématique que le conflit d'intérêt lui-même. Donc moi, je lave peut-être plus blanc que blanc, mais je fais même attention à ça. Fait que tu sais, sur mes médias sociaux, il se passe à peu près rien. Tu sais, puis je ne partage pas. J'ai mis photos de mon chien, mais il est tellement beau.
Non, mais moi, je suis dans la même situation. Tu sais, je suis prof de politique. Je fais des émissions d'affaires publiques. Je pense que les gens savent idéologiquement où je niche, là. Mais je suis pas attaché à aucun parti. Puis là, ils se sont tous essayés là, de... Non, mais c'est correct. C'est de bonne guerre. Mais moi, je tiens à avoir cette indépendance-là aussi pour être capable aussi de critiquer tout le monde, même ceux pour qui j'ai peut-être un penchant idéologique. Là. Ça va pas être difficile. Puis, sous question à ça... Faire du journaliste dans un milieu comme la MRC Maria-Chapdelaine, c'est un petit milieu. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Toi, au niveau de ton journaliste d'enquête, quand tu fouilles un dossier, j'imagine que tu peux pas non plus toujours... T'es pas là pour brasser de la merde.
Non, on peut pas. difficilement faire ça. Tu sais, moi, j'aime à dire qu'on est là pour tes bons coups, on est là pour tes moins bons coups. Mais... faut être réaliste. Généralement, la presse locale est une presse qui a des petits moyens, peu de ressources, peu de personnel. Puis, c'est pas là que tu vas faire des gros dossiers qui vont aller shaker les colonnes du temple. Là. C'est pas là que ça va se passer. Puis, bon, ben, je veux dire, tu l'as dit, tout le monde se connaît. Là. Fait que si je m'en vais taper sur le clou un peu trop fort de quelqu'un, si je veux taper sur le clou de quelqu'un, il faut que je sois vraiment padé, là, parce que je peux pas le faire sans avoir des preuves vraiment importantes de ce que j'avance. Mais là, après ça, j'ai tapé sur le clou. Bon, mais là, c'est lui, puis c'est son beau-frère, puis c'est sa belle-sœur, puis c'est son ami, puis c'est ici. Puis je suis rendu que c'est le maire aussi qui est pas content. Puis, tu sais, ça va vite quand même. Là. Fait que, bon, si quelqu'un a fait de quoi qui mérite d'être dit, puis que c'est négatif, on va le dire. Mais c'est sûr que je peux pas faire de mon fonds de commerce, de commencer à essayer de sortir... Tu sais, de sortir toutes les petites affaires négatives à gauche puis à droite. J'essaie de faire ça, je m'en sortirai jamais.
T'as-tu déjà vécu de la pression, là, sans nommer personne?
Ça m'est arrivé à quelques reprises d'être l'individu le plus détestable de Boom Stassini. Puis c'est correct, là, j'accepte ça parce que des fois, surtout sur des questions de faits divers, là, je nommerai pas personne, là, mais des fois, tu sais, bon, ben il y a des gens, si tu veux, je te dis, ils en ont vendu de la dope puis ils ont été arrêtés.
Ouais, on a des preuves. Là.
Fait que là, c'est ça, mais là, je reçois des commentaires par la bande. De dire, hey, arrête de parler de ça. Ça arrive, ça va arriver, mais ça fait partie de la game.
Ouais. Toi, Simon, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, j'imagine, pour ton métier d'humoriste, parce que c'est un outil marketing extraordinaire et gratuit. Est-ce que tu fais attention, toi, à ce que tu vas te dire, même si c'est, tu sais, toi, c'est de l'information en lien avec tes spectacles, mais aussi, tu sais, tu veux être, ben, tu veux être drôle. Tu es drôle, ça, je le confirme, mais des fois, tu sais, dans un message, il faut peut-être essayer de piquer, de faire sourire les gens pour les attirer. Mais est-ce que tu as des fois aussi des backlash, des commentaires du monde qui disent ou tu penses que tu as l'impression que tu peux tout dire?
Oh, je me questionne beaucoup quand même. Souvent, je valide avec ma blonde, avec des gens aussi. Si, mais moi, je suis assez anecdotique. Donc, environ le trois quarts du temps, je frotte pas quelque chose qui pourrait être si sensible que ça parce que ça me concerne énormément, t'sais. Mais... oui, je me pose la question, justement, comme je disais, je trouve pas qu'on a aucune responsabilité de toujours pouvoir dire que c'est une blague. Puis, mais j'ai pas encore assez, je pense, d'énormes reach réseaux sociaux. J'ai une page qui est suivie par 2500 personnes. T'sais, je pense que c'est à partir du 20 000, 30 000, 40 000. J'atteins pas encore exactement l'opinion publique, je pense, pour. J'ai pas énormément de backlash à cet égard-là. Pendant des numéros, j'en ai déjà eu, mais tu parles de culture locale. Je trouve qu'ici, il faut faire doublement attention. Des fois, tu connais l'endroit, tu veux faire des blagues. Moi, je me rappelle, on est allé avec les Sourdemousse au Festival du Bleuet. On avait fait une blague sur le western, là, pour dire que c'était sur le déclin, là, puis le gars du western, là, là, dans tous ses états, là, puis on fallait que le Bleuet nous réinvite plus jamais, tout ça. Alors que, tu sais, dans les faits, nous, on a juste dit tout beau. On est des gars d'ici, là, on l'entendait oui, ici et là. C'était voyez, pas. Tu sais, pourquoi t'as. Je pense que le gars était fâché de même parce qu'on a eu une clap pendant ça rit. Il y a 10 000 personnes qui ont éclaté de rire. Fait qu'après ça, tu fais.
Ça le prix, validé quelque
le prix personnel, mais d'un autre côté. Pourquoi les gens ont ri comme ça? Sûrement pas parce qu'on était à côté du point. Donc, en humour, je pense, puis même dans l'art en général, il faut faire attention. Parce que les artistes, je trouve qu'on vit un certain moment où on veut plus. Pas beaucoup d'artistes qui veulent s'engager. Tu sais, tu parlais de ton opinion politique tout à l'heure, puis ils voulaient tous savoir que tu appartenais à quel parti. Tu sais, je pense que dans l'art, les artistes font attention aujourd'hui à ça parce que finalement.
Ben, peut-être trop.
Si
hein?
Même trop, moi, je trouve que oui, parce qu'on veut plus. On veut comme jamais mettre le pied dans. Puis, tu sais, il y a quatre piscines devant nous, puis on veut toujours avoir le pied à l'extérieur parce que si une opportunité nous permet d'embarquer dans une piscine, on veut pouvoir en sortir et réembarquer dans l'autre piscine s'il y a du financement. Je trouve que des fois, il y a quelque chose de malsain là-dedans qu'on veut plus avancer vraiment ce qu'on pense parce que si. Telle personne voudrait nous engager pour un show, puis lui, il pense pas ça. On va peut-être se bloquer des opportunités. Puis il y a beaucoup d'artistes qui, par rapport à ce qu'ils pensent réellement de l'information, d'une situation, vont pas nécessairement en parler parce qu'ils peuvent se faire barrer des choses. Puis moi, je trouve que c'est pas toujours aligné. Oui.
Parce qu'il y a un peu un déclin. Tu sais, on voyait dans les années 70 beaucoup, là, les artistes étaient hyper engagés.
Oui,
là.
Moi, je pense que c'est un vecteur important qu'on devrait croire à ce qu'on veut puis y aller. Puis les gens qui nous suivent pas à cause de ça, bien, tout bad.
T'sais. Et le fait, justement, qu'on veuille pas déplaire à tout le monde, est-ce qu'on se prive pas d'un dialogue intéressant? Moi, l'impression que j'ai quand j'écoute ça, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est plus capable de se parler. Tu sais, dans les extrêmes, bon, les gens sont pas parlables, c'est correct, mais dans la vie, là, moi, je suis capable de parler à des gens qui sont à droite, à gauche, au centre, qui sont pour, contre plein de sujets, mais on est capable de discuter tant que ça vient dans le respect puis avec dans le dialogue, là. Parce que fondamentalement, sinon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je discute avec des gens qui sont d'accord avec moi déjà, ça sert à rien, ces discussions-là,
peut-être,
dans le sens où faut, je sais pas.
Les réseaux sociaux sont une chambre d'écho, on en parlait premièrement. Souvent, on prêche en convertis sur nos propres chambres d'écho de réseaux sociaux. Puis moi, j'arrête pas de dire, je pense qu'il va falloir comprendre, à dire drastiquement, sous peu, que les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas une plateforme de débat. C'est une plateforme d'exposition de certains faits, de certains facteurs, de certaines. Mais après ça, si tu veux en débattre, sors du réseau social. Tu sais, moi, il y a ça qui me fait capoter. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a jamais rien de pertinent qui s'est réglé en commentaire sous un article. Ou sinon, je sais pas si tu peux corroborer, mais moi, je pense qu'on devrait arrêter. Tu sais, je pense qu'éventuellement, même, j'en viendrai même que je pense que supprimer les commentaires. Tu sais, quelque chose, on peut plus commenter. Lis et commente dans ou, tu sais, à certains égards. Mais oui.
Mais moi, j'ai déjà fait ça. Quelqu'un, il voulait discuter avec moi sur les réseaux sociaux, puis il m'avait un peu insulté. Puis que j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Il a fait un mot du saut, mais ça a réglé beaucoup d'affaires.
Ouais. Ben, on n'est jamais aussi méchant en personne ou aussi confiant dans nos moyens que derrière un écran, il y a un avatar. Tu deviens l'avatar de toi-même. Fait que tu te permets beaucoup plus de choses que quand on se regarde dans le blanc des yeux, que là, je vais me permettre de nuancer. Surtout les. J'avais vu une formation en communication qui disait que quand le message laisse une place à une interprétation, ça ne devrait jamais être communiqué à l'écrit. En ce sens que si on se rejoint à 16h, je peux t'envoyer ça par texto. Par contre, si tu dis « Pierre, ça m'a heurté quand tu fais que je ne devrais pas te parler de ça par texto parce qu'il n'y a pas mon ton. »
Parce que moi, je vais interpréter ton ton.
Il dit quand il y a
et si moi, il est en beau maudit après moi.
Alors que peut-être pas tant que ça.
Ben, c'est ça.
Mais toi, par un point d'exclamation, par une virgule au milieu d'un mot que j'ai pris un temps, par un trois petits points que tu fais « Oh, y a-tu hésité? » Donc, ça m'avait marqué, moi, que ce formateur-là en communication qui avait dit « Quand le message laisse place à interprétation, ça veut dire que ce n'est pas un courriel, ce n'est pas un texto, c'est une conversation de vive voix. »
Oui, puis on voit aussi, en général, là, quand ça s'envenime, là, ça prend, je sais plus, là, une journée, puis il y en a un des deux qui s'est traité de nazi, puis l'autre a traité l'autre de communiste.
Le point là. Godwin. Non,
ah ouais, ouais. That escalated quickly. On a escaladé rapidement. Là,
Comme toi, Serge, quand. Moi, je sais que dans les plus grosses salles de nouvelles, je ne veux pas dire que tu as une petite salle.
Non,
ce n'est
pas une salle de nouvelles, on va dire comme ça.
Avant de sortir des infos peut-être sensibles, on doit se valider avec des avocats, justement pour éviter les poursuites. On reste dans une société de légalistes où on veut éviter ça le plus possible. Est-ce que toi, tu es obligé de faire ça ou pas à ton
Non. Ah ben, à moins que j'aurais vraiment quelque chose de majeur, là, mais non, ça n'est jamais arrivé. Il y a déjà eu des gens qui nous ont menacés de poursuite, mais souvent, ce n'est jamais plus qu'une menace qui ne sera pas mise en bande. Mm. Parce que poursuivre la presse, tu n'as pas tellement un cas en principe. Là,
ben, surtout si toi, tu as bien fait ta job, tu es allé chercher
mais, des mais non, c'est ça. Moi, je n'ai pas besoin d'aller jusque-là, mais bon, ne sait-on jamais. Ça dépend de la teneur du sujet, tu sais. Ouais. Si, il y a des choses qui peuvent être bien, bien touchées. Et là, effectivement, si tu n'es pas, si pas bien backé en arrière-plan puis que tu as pris toutes les bonnes approches, ben là...
T'sais comme,
mais tu sais, personnellement, ce que je ferais pour... J'ai tapé mon micro. Pour aborder un sujet qui est peut-être un peu plus sensible, ben je vais valider avec d'autres collègues au sein de l'équipe. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu trop... Parce que des fois aussi, tu sais... Tu peux avoir ton jet, avoir écrit ton premier jet, avoir ton article, puis tu fais, j'ai des bonnes cotes, des quotes, tu préfères, des citations. Là, je fais, ouais, ça, c'est percutant, mais des fois aussi, après réflexion, ça vaut peut-être la peine de l'adoucir un brin, tu sais, là. C'est pas toujours nécessaire de vouloir. Oui, c'est correct de vouloir attirer l'attention, puis tu sais, il y a des médias qui le font très bien, là, on les nommera pas, mais il y en a qui sont très sensationnalistes. Puis bon, moi, ça me déplaît, mais ça, c'est moi. J'ai pas besoin de suivre la même trace. Là, on va essayer d'avoir une approche plus pragmatique puis plus réfléchie.
As-tu déjà été obligé de sans te dire censurer, là, c'est un mot qui est gros, mais des fois de. Parce que, je te donne un exemple. Il faut que tu écrives de quoi sur une. Pas une nouvelle, là, mais tu écris, mettons, un éditorial sur le caribou forestier. Non, mais tu comprends que c'est un sujet sensible. En général, les gens
c'est un sujet sensible, mais je n'écrirais probablement pas un éditorial là-dessus.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, parce que en général, les gens sont pour l'environnement. Je pense qu'on réalise les affaires, mais de l'autre côté, ça nous fait vivre, l'industrie forestière. Ouais. Fait qu'on est pris dans quelque chose où j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sortie où tout le monde est gagnant. Là.
Non.
Fait que toi, dans ce temps-là, tu préfères juste
non, pas, je, pas moi, le faire. Je m'aborderais pas ce sujet-là sur un plan de l'opinion ou de la chronique ou de l'éditorial, peu importe, parce que justement... Tu vas un peu te peinturer dans le coin, là, que tu le veuilles ou non.
Parce que peu importe.
Tu sais, je peux avoir une opinion sur le sujet, mais ça va être mon opinion personnelle, puis j'ai pas besoin de la donner aux gens. Je vais m'en aller sur des sujets de chronique qui vont être plus faciles d'approche. Je parlais du mode de scrutin.
Ouais.
C'est difficile d'être contre une réforme là, du mode de scrutin.
Ouais, ça dépend. Les caquistes sont très majoritaires, sont en général contre.
Écoute, les gouvernements qui se font lire avec sont en général contre.
Ouais.
Mais bon, j'aborderai pas un sujet aussi tranché avec une chronique, parce que bon, ça revient à l'idée que moi, je veux préserver aussi mes opinions personnelles par rapport au métier que je fais. Mais bon, il y a des gens qui ne sont que chroniqueurs, qui ne sont pas journalistes. D'ailleurs, ça vaut peut-être la peine d'en parler de
ça. Oui,
parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les journalistes ou qui ont une opinion très négative des journalistes. Mais ils mettent tout le monde dans le même panier.
Sophie Durocher, Richard
Martineau,
vont les placer comme des journalistes.
Ben, tu lis un chroniqueur. Tu as le droit de l'aimer ou de ne pas l'aimer, ça t'appartient.
C'est
son opinion.
J'ai pas de
problème avec ça. Mais il véhicule une opinion, ce n'est pas un journaliste. Mm-hmm. Le seul que je suis prêt à dire que c'est un chroniqueur et qui est journaliste en même temps, c'est Lagacé.
Mais quand il fait une chronique, il fait pas un article. C'est très clair.
Oui, mais même quand tu fais une chronique, souvent aussi, tu vas saisir toute la démarche journalistique qu'il y a en arrière. Ouais. Alors que ce n'est pas le cas de la plupart des chroniqueurs. Tu lis bas de côté, ce n'est rien de plus qu'un idéologue qui dit des choses. C'est la même chose avec Martineau.
Il en dit des choses, il
est très vers
mais c'est vrai que Lagacé, tu as tout le temps ses sources, le source exact. De ses études, tu es capable de suivre tout son processus.
Et là, ce qui fait en sorte qu'il y a comme un flou des genres. Là. Les gens, ils vont dire, bon, ben, les journalistes, check là. Mais attends un peu, là. Les journalistes de la presse, ils font pas... pendant longtemps, par exemple, on disait que la presse, c'était le journal des libéraux ou de la Power Corporation à une autre époque. Mais ben, tu pouvais lire... André Pratt ou Alain Dubuc, puis tu faisais « OK, ouais, mais il faisait de l'auditorial. » Quand tu allais lire les textes réguliers des journalistes bien ordinaires, c'était un texte de fait puis d'attitude, là, tu sais.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui fait aussi la couleur d'un journal, là. Mais puis, mettons, dans le Journal de Québec, moi, je leur donne, là, ils ont autant Léopold Lauzon que Richard Martineau, Mais clairement, la mise en page fait que Richard Martineau, c'est une vedette de la chronique. Léopold Lauzon est relégué à travers.
Puis, il y en a quand même beaucoup aussi de chroniques québécoises.
Moi, je trouve quasiment
trop. Beaucoup la chronique. Bon, mais c'est assez populaire. Les textes d'opinion sont très, très populaires. Si tu veux obtenir du clic...
Mais est-ce que
c'est un peu de réalité d'aujourd'hui.
Mais est-ce que ça
n'amène
pas de la désinformation? Parce que là...
Ben oui, ça va en amener un peu.
Tu sais, les gens qui ne connaissent pas le débat, là, puis qui écoutent la personne leur dire « Moi, je pense ça », ça devient rapidement une vérité démagogique là, quand tu n'es pas capable de faire la part des choses, non?
Oui, oui. Ben, je pense que oui, là, de toute évidence. Il y en a qui vont faire un rapprochement facile. Bon, ben lui, il a dit ça, ça doit être vrai. Mais t'es sûr, quand tu es dans l'opinion, par définition, il y a plus d'une opinion sur le spectre. Fait fais attention, mais bon.
Puis moi, je dis souvent à mes étudiants, pensez-vous que toutes les opinions sont bonnes? On entend souvent ça. Toutes les opinions sont bonnes. Fait, attendez, là. Les opinions sont bonnes si elles sont appuyées sur des données, sur des faits, sur une réflexion. Pas dire n'importe quoi, là. T'sais, c'est pas parce que je pense une affaire que c'est.
Puis je trouve qu'aujourd'hui, il y a des choses aussi. On confond faits et opinions. Des fois, moi, quand tu m'arrives, tu dis, il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est mon opinion. C'est pas une opinion. Moi, c'est comme si je te regarde présentement, Pierre, il est 10h15, tu vas dire, Simon, il est 8h30. C'est pas, oh, mon opinion, il est 10h15. Mais non, à un moment donné, ça devient des faits. Fait que moi, je trouve qu'il y a certaines personnes, justement, le réchauffement climatique, il y a certains trucs qu'on traite comme si c'était de l'opinion. Ouais. Et dans les faits, ça reste un fait. Mais certains chroniqueurs sont pas pour ça. Ou ils disent pas vraiment ce qu'ils en pensent. Moi, Éric Duhem m'avait fendu à Infoman quand il, tu sais, lui, il va chercher beaucoup les, tu sais, qui étaient contre le vaccin. Il était quand même, il allait les chercher. Et à Infoman, vous, êtes-vous vacciné, monsieur Duhem? Oui, mais dans mon cœur, je le suis pas. Tu sais, à quel point tes convictions, tu veux juste aller chercher de là, on devient, tu sais, un peu. Fait que si tu étais contre la science, pour vrai, les antivax que je connais, ils sont antivax. Ils n'ont pas se faire vacciner. Donc, toi, tu as été te faire vacciner, t'es pas contre ça, mais tu prêches pour aller le chercher.
Tu instrumentalises un peu ça.
Il y a quelque chose de très malhonnête intellectuellement là-dedans. Puis je trouve qu'on, des fois, on laisse à trop aller ça sous le joug de l'opinion. Le réchauffement climatique, c'est un bon exemple. Ce n'est pas une opinion. En ce sens que moi, je suis pas un scientifique, mais tous les écologistes que je lis, tous les scientifiques que je lis me disent qu'il est minuit moins une. Je suis qui? Moi, qui est un littéraire, qui pour leur dire « Oh, ben moi, c'est pas mon opinion », je trouve que des fois, ça s'égare un peu.
Puis il y a un terme qui est utilisé dans les milieux complotistes, entre autres, c'est « mon ressenti ». Je veux dire, ton ressenti, il vaut pas grand-chose, là, au final. Tu sais, confronte-le aux faits et à la réalité. Ton ressenti, je m'excuse, mais...
Oui, c'est ça.
Tu baseras pas ton opinion là-dessus.
C'est basé beaucoup souvent sur la peur. Là. Ouais. On est,
Mais on a parlé de clic tantôt. Moi, trouvez-vous, il y a ça aussi aujourd'hui, le fameux clickbait qu'on appelle aussi. Des fois, tu parles que les gens ne cliqueront pas, mais est-ce que la presse comme est assujettie à ça? Plus ça clique, plus il y a des sous qui sont mis. Parce qu'il y a des sites à ça que vous ne croirez jamais ce que ce joueur de hockey a fait. Là, tu cliques, finalement, il a fait une mauvaise passe. Les gars, OK, il m'avait mis ça gros même, mais dans les faits.
Je dis le clickbait existe pour une raison, puis c'est parce que, bon, je connais pas toute la plomberie publicitaire, là, mais en gros, tu vends tes bannières pour un certain nombre d'impressions, puis bon, mais plus tu as du clic, plus tu es capable de vendre des grosses campagnes, puis plus tu es capable d'en tirer des revenus intéressants. Ceci dit, les revenus intéressants sur le web, c'est un peu un mythe, là. Si tu t'appelles pas Google ou tu t'appelles pas Facebook, tu fais pas des revenus intéressants sur le web. Ça c'est clair. Mais oui, c'est une réalité. Puis bon, moi, j'essaie de ne pas en faire, du clickbait, même si des fois, ça serait super facile d'en faire, tu sais. Mais ça me paraît un peu déloyal, c'est une pratique un peu douteuse, mais on en voit, tu sais, puis tu en as cité un, là. Il y a des tonnes de petits blogs comme ça de nature sportive, là, résolument abs, là, puis... Puis, tu sais, c'est tentant, tu sais, ils te posent une question, puis là, la curiosité naturelle est de vouloir obtenir la réponse, fait que là, ben, je vais cliquer, tu sais. Là, en même temps, ça devient un combat. Il ne faut pas que je donne son anane. Je ne cliquerai pas, tu sais.
Mais c'est une réalité. Ces chroniques risquent de revenir davantage sur les réseaux sociaux.
Exact, parce que plus un article va être cliqué à partir des réseaux sociaux, bien, plus l'algorithme va le pousser comme étant un contenu potentiellement intéressant, tu sais. Là, je ne connais pas tous les mystères de l'algorithme. Là.
Personne ne les sait.
Ces voix sont impénétrables.
Mais ça marche beaucoup, par exemple, si Simon publie quelque chose, puis je ralentis devant ton
exactement,
ton truc. Là, ça va me donner des points. Si je clique un « j'aime », ça va me donner plus de points. Mmh. Si je le commente, là, je viens de maximiser mes points. Non, si je le partage en plus, fait que tout ça, c'est calculé puis ça crée. Fait que là, la prochaine fois que tu vas publier de quoi, ben là, moi, si j'ai appuyé, cliqué, aimé, commenté, partagé, ben là, ça va revenir automatiquement,
et
rapidement.
Là, tu crées ton phénomène de chambre d'écho.
Absolument.
Où moi, ce que j'ai fait personnellement, il y a un certain nombre de personnes dans mon entourage Facebook avec qui je suis en profond désaccord sur un paquet d'affaires, mais je les garde dans mon entourage Facebook en me disant ils vont me propulser des affaires que j'ai pas vraiment le goût de voir.
Ouais, je fais pareil.
Fait que je fais exprès de les conserver. Parce que des fois, tu sais, je peux les envoyer en pénitence. On va donc 30 jours en pénitence, ça commence à me tomber ses nerfs, tu sais. Mais je le fais plus parce que je me dis, bon, ben ces gens-là, je peux être en désaccord avec eux, mais ils m'amènent quand même une vision de la médaille qui est différente, parfois peut-être teintée un peu forte dans leur propre perception des choses, mais au moins, je la vois passer dans mon fil d'actualité. Alors que sinon, ben, ça serait beaucoup plus simple d'avoir un filtre qui ne montrait que des publications journalistiques à semaine longue, là, tu sais.
Ceux qui ne savent pas c'est quoi une chambre d'écho, là, les algorithmes des réseaux sociaux, ils viennent justement bonifier. Tu sais, tu penses quelque chose, ben, on va te donner... Si tu tripes sur la couture, on va t'envoyer des liens de couture, etc. Donc, quand c'est plus idéologique, ben, tu viens à te renfermer dans une position qui vient conforter ce que tu penses. Mm-hmm. Moi, j'ai un exemple frappant que c'est un jeune étudiant en ATM qui fait un pool électoral et là, dit « Hey, QS va gagner facile les prochaines élections. » Ben ça, là, toutes les données, il va voir les agrégateurs de sondages, tout le monde nous dit le contraire. Parce que lui, sur ses réseaux sociaux, tout le monde votait pour QS. Mm-hmm. Bien, là, il y avait cette impression-là, mais justement, il se faisait nourrir par ce qu'il aimait, tu sais.
Mais il y a quelque chose aussi, tu dis, c'est calculé, mais c'est ça qui est inquiétant. Je ne sais pas si vous avez vu derrière nos écrans de fumée de Social Blog.
Oui,
c'est
très bon.
C'est complètement inquiétant de voir que c'est calculé. Et pas, ça a été calculé, mais il y a une perte de contrôle un peu. L'intelligence artificielle, c'est ça qui est inquiétant. Elle commence à... L'algorithme, des fois, fait des choses que même ceux qui ont créé l'algorithme sont comme dépassés par les événements. Le binaire s'active, c'est parti. T'sais. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète là-dedans aussi, de savoir que, tu sais, comme Google, il disait là-dedans justement que beaucoup de gens prennent Google pour la vérité. Google va juste prendre ce qui est le plus probant, ce qui est le plus statistiquement présent pour te l'amener. Puis dans ce documentaire-là, il donnait l'exemple de quelqu'un chez lui. Moi, je vais écrire sur Google « La Terre est », ils vont me compléter ronde. Mais certaines personnes chez eux qui sont toujours sur des sites de la Terre, ils vont écrire « La Terre est », puis Google va écrire « plate ». Parce que selon leur chambre d'écho, selon leur recherche, donc c'est pas vrai. Et ça m'a marqué, puis certaines personnes, j'ai pris ça sur Google. Bon, Google, il va t'amener...
Ça n'est jamais plus qu'un outil.
Exactement. Lui, Google, il réfléchit pas. Il va chercher les choses les plus probantes, les plus statistiquement viables. Puis ce que le monde clique le plus dessus, ben, tu sais, c'est écrit « La meilleure lasagne ». Google, il sait pas c'est quoi la meilleure lasagne. Mais il sait que cette lasagne-là, on a cliqué dessus 100 000 fois, puis cette lasagne-là, on a cliqué dessus 3 fois. Il va te présenter celle à 100 000, mais Google n'a pas réfléchi.
Oui, mais non, il n'a pas goûté au laser.
Exactement, là, c'est ça qui est inquiétant des fois de me dire, OK, c'est calculé, mais tout ça, on n'est pas encore, on n'a pas un gros recul face aux réseaux sociaux.
Non.
Et comment ça modifie notre façon de penser et notre esprit.
Absolument.
Et ça la modifie très certainement, notre façon d'interagir. Mais le recul, on l'a-tu encore? Pas du tout.
Puis ça l'a favorisé aussi l'expression des deux extrêmes, là. Qu'on le veut ou non, puis la pandémie est un moteur super puissant pour accentuer ça. Les gens qui étaient, que ce soit plus à gauche ou plus à droite, là, ça m'importe un peu, mais qui maintenant ont des plateformes où ils peuvent vraiment plus se faire entendre qu'autrefois. Je veux dire, les discours qui étaient autrefois cantonnés à la taverne du coin, là, maintenant, ils ont une beaucoup plus grande résonance avec tous les côtés négatifs que ça amène.
Ben oui.
Parce que ces gens-là, souvent... sont extrêmement militants, puis ils sont très agressifs, puis parfois ils peuvent être bien intentionnés ou ils peuvent avoir... Tu sais, il y a une raison qui explique qu'ils en sont là dans leur vie, puis c'est pas à moi d'en juger, mais c'est venu...
Parce que ça leur permet...
Ça n'a pas lu le climat, là.
Oui, c'est ça, puis ça leur permet de se réseauter entre eux. Tu sais, avant, quelqu'un qui était plus dans les extrêmes, il réalisait rapidement que, écoute, dans son entourage, il y a peu de gens qui pensaient comme lui, fait que finalement... Il se tamisait un peu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on trouve des gens qui pensent comme nous partout à travers le monde. Fait que là, on se regroupe et on s'encourage.
Mais tu as parlé tantôt, mais il y a quelque chose, tu sais, la presse puis s'associer aux libéraux et tout ça. Mais il y a quelque chose. Est-ce que tu penses qu'en médias locaux, on est moins surveillé par la grosse boîte d'or? Parce que veux pas, c'est des faits quand même. Tu sais, je t'avais vu faire une phase de. Les politiques contrôlent un peu l'information. Tu sais, en France, je voyais un chroniqueur qui disait que, tu sais, c'est des banques qui ont acheté Le Monde, qui ont acheté. Et après ça, c'est dans le but d'élire des politiciens.
Il y avait cette réalité-là.
En région, est-ce que tu penses que c'est moins touché?
Pour nous, en tout cas, nous, on est une petite entreprise qui possède 3 journaux autour du lac Saint-Jean, un bimensuel à.
Trivium, ça appartient à qui, ça, après
c'est
ça?
Des gens de la, c'est deux personnes de la région. De
OK, c'est pas Québécois, c'est pas relié.
Non, on n'est pas lié à ça. Nous, ce n'est qu'une petite entreprise, une petite PME régionale. Donc, tu sais, ces gens-là n'ont pas des intérêts politiques à faire valoir. Là,
mais la presse,
mais la presse, la presse, ouais, c'était
mais
ça.
Mais il faut savoir que, mettons, on touchera jamais au texte d'un journaliste, dans le sens où on va peut-être enlever des pour que ça rentre dans le format, mais ça reste toujours, c'est jamais le journaliste qui va choisir ni le titre ni la photo. Et c'est là où le média, la presse, le Journal de Québec, va manipuler l'information. Okay. Ça ne sera jamais dans l'article, mais ça va être dans la présentation de l'article.
Cette photo, c'est jamais au choix du journaliste.
Non,
c'est, okay, c'est
non, ça. Les photos timbrent pas, c'est pas le choix du journaliste, je te confirme.
Ouais, ouais. Puis là, ça amène beaucoup de débats aussi sur la liberté d'expression. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, ça a des limites. Puis je sais qu'en humour, il y a eu un cas classique, le Mike Ward, Jérémy Gabriel. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, dans le temps, il y a des gens qui m'appelaient, des journalistes, pour me dire, pour avoir mon opinion là-dessus, je leur donnais. Puis après ça, ils me disaient, bah, tu prends pour qui? Là, je fais, je prends pour personne. Je veux dire, les deux défendent, tu sais, la dignité humaine et la liberté d'expression, c'est deux valeurs importantes. Là, ce qu'on demande, c'est de mettre une limite entre les deux. Mm-hmm. Mais les deux, j'ai trouvé importante. Il n'y a personne qui a gagné. Là, les deux causes sont nobles. Je ne sais pas.
Moi, je pensais quoi, toi? Ben, puis je trouve aussi que. Moi, je suis pas du cas de « on ne devrait pas dire ça ». Tu peux militer, tu peux écrire un numéro qui va à l'encontre de ça. Tu sais, à un moment donné, pareil, mais comme je disais, je trouve que la société change, ce que les gens veulent entendre change. Puis si tu n'es pas pour embarquer dans ce courant-là, ben tu n'es pas censuré. C'est juste qu'il y a des choses que les gens veulent plus entendre, puis c'est à toi de l'assumer. Par contre, moi, si quelqu'un... quelqu'un voudrait arriver pour dire « moi, je pense que les Blancs sont supérieurs aux Noirs, je vais en faire un numéro ». Appelle-toi, dans le sens que t'as bien... Mais moi, d'un autre côté, si tu veux le faire... Je trouve ça difficile de ne pas braquer les gens, de dire exemple, tu sais, Mike Ward, ça venait un certain temps, ou certaines personnes, s'il y a un following, de dire à ces gens-là, vous n'avez pas le droit d'écouter ça. Je me ramène à moi, si on me disait ça à moi pour quelque chose, je me braquerais.
Mais donc, ça amène aussi quelque chose d'émotif. Je l'aime, lui, donc je prends pour lui. Mais de manière pragmatique, on peut aussi avoir des doutes sur est-ce que là, il y a dépassé les limites? Est-ce que l'autre, c'est honnête aussi sa démarche de dire, écoute, moi, ma dignité personnelle, je veux dire, tout le monde a le droit d'avoir une dignité.
Moi, j'ai trouvé que ce qui sortait beaucoup, en fait, c'est que les commentaires et la réaction des fans de Mike m'ont montré qu'il y avait un problème beaucoup plus que le gag de Mike.
C'est ça, c'est
le gag, si c'était juste des gens comme moi qui auraient reçu le gag de Mike, jamais je serais allé intimider Jérémy Gabriel. Je serais sorti de la salle en disant, oh, ça c'était edgy, mais ça en serait resté là. J'aurais jamais écrit à ce jeune homme-là. J'aurais jamais... Mais par la suite, le fait de voir des fans qui se mettent à colger de la haine comme ça, là, ça montre que cet humour-là, es-tu assez... Moi, l'humour noir, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est à ça de demander, qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que... C'est-tu à ce point utile? Moi, il y a quelque chose que tu as le droit d'en rire, mais là, quand tu vois que les gens sont à ce point peu informés, peu éduqués pour certains, là, tu dis, eux, tu leur donnes un anane qui contrôle pas, qui maîtrise pas. Tu leur donnes, eux, dans leur tête, c'est ça. Moi, tu as le droit de rire de tout. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Pour moi, c'est pas ça, la liberté d'expression. S'il n'y a pas une réflexion derrière, on perd un peu, c'est le chaos.
Puis à un moment donné aussi, c'est ta responsabilité comme personne qui veut consommer un contenu humoristique, de savoir où tu es prêt à aller puis où tu veux pas aller. T'sais. Si tu n'aimes pas ce type d'humour-là, ben va pas acheter un billet pour aller voir Mike Ward.
Exactement, parce que Mike Ward, tu veux pas m'entendre parler, ça c'est l'autre chose.
Non, mais c'est ça.
Absolument. Juste déploguer.
Mais on dirait que le monde, ils font exprès. T'sais. J'aime pas quelqu'un, je vais aller voir tout ce qu'il fait pour l'haïr encore plus. Même, j'ai pas ce temps-là.
Moi non plus.
Moi non plus, exact. Je dis toujours aux gens, concentrez-vous sur ce que vous aimez. Il y a plein de choses. Va écouter de la musique que t'aimes, va écouter du contenu que t'aimes. Ça va au moins empêcher le. Parce qu'il y a des choses qui se disent qui ne devraient peut-être pas se dire, mais où ça a été dit aussi des fois. Tu sais, des fois, le gag de Mike Ward, c'est un bon exemple aussi qu'à la base, là, avant que les médias le prennent et fassent faire le tour du Québec, à ça, le gag avait été entendu par 200 000 personnes, 250 000. Après ça, les médias l'ont pris et il y a eu une grosse vague d'intimidation qui est revenue parce que le média, exemple, le présentant, tu sais, regardez comment ce gag-là n'a pas de bon sens, exemple. Tu as des gens chez eux qui faisaient, c'est bon ce gag-là. Tu sais, ils l'écoutaient et ils n'étaient pas convaincus. Donc là, ils ont fait, c'est bon ça. Puis là, ils se sont mis à rire. Alors que le gag, ils ne connaissaient pas. Des fois, il faut faire attention dans des cas comme ça, je trouve, de est-ce que les médias ont propulsé le gag et ils ont permis de vivre à plus grande échelle.
Sans aucun doute.
Vraiment, tu sais. S'ils avaient juste fait, regardez, on va regarder ça au privé, les deux parties vont se contacter, vont se parler, puis c'était pas sorti à l'échelle publique. Mais je pense que Jérémy Gabriel aurait beaucoup moins d'une vague de haine, ça, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas vu le gag, ils l'ont entendu, et les médias sortent souvent le truc, le numéro.
Mais il y a un côté sombre aux médias, hein, puis ça, c'en est un, tu sais. Je veux dire, moi, parmi les choses que j'ai eu à faire, que j'ai trouvé le plus désagréable, c'est d'aller couvrir des événements comme, mettons, l'enterrement d'une jeune fille là, qui avait été assassinée froidement à Belleuil. Tu sais, Puis on était là, plusieurs journalistes, puis on se regardait, puis on se disait, c'est qu'on fait ça, tu sais, mais bon.
C'est-tu? Là, faut que t'ailles pointer ton micro.
Ben moi, je l'ai pas fait, ouais. Là, tu sais, personnellement, je suis pas allé voir quelqu'un qui était pleuré avec mon micro, là, j'ai le loisir de pas avoir à faire ça parce que j'avais pas cette pression-là qui me venait d'en haut, mais tu sais, je pense aux journalistes qui, eux, l'ont fait. Dire, lui, cette personne-là, ça ne tente pas de faire ça, mais là, il y a de la pression qui vient en haut, puis c'est son chèque de paye, puis c'est son pain sur sa table, là, fait qu'il va le faire, mais il n'y a personne qui a gagné de ça, il n'y a absolument personne, puis c'est pas d'intérêt public. Un coup qu'on a dit que cette jeune fille-là a été assassinée, puis que le criminel a été arrêté, puis qu'il va être poursuivi en justice, on a fait le tour du dossier, on n'a pas besoin d'aller jouer au voyeur dans...
Mais les gens aiment ça.
Mais oui, mais les gens, c'est émotif, puis il y a des gens qui vont lire ça avec beaucoup d'intérêt, tu sais. Mais bon, c'est une part sombre des médias, et là, tu sais, puis c'est la même chose quand tu dis que les médias ont donné beaucoup plus d'espace à un gars qui avait déjà été entendu 200 000 fois, puis que...
Finalement, tout le Québec l'a entendu.
Tout le monde l'a entendu, finalement.
Alors qu'on dit qu'on ne devrait pas entendre ce genre de gag-là. Ouais. Il y a une ironie derrière tout ça, de le propulser.
C'est qui, à un moment donné, la question qui se pose aussi, c'est qui, dans l'univers médiatique, qui a pris la décision de dire « ça, c'est un enjeu important, puis ça, on va en parler », tu sais.
Bien, comme tu dis, c'est parce que médiatiquement par là, ça tombait la liberté d'expression, ça tombait la dignité humaine. Il y avait des enjeux plus grands, des sous-textes plus grands.
La Cour suprême a fait une super job là-dessus, là, d'écouter les deux, de trancher, mais tu sais, de redonner de la dignité à un puis de permettre à l'autre de pouvoir un peu baliser jusqu'où il peut aller. Là. Je trouve que c'est important aussi en société, non?
Mais oui.
Ben,
vraiment.
Mais toi, selon toi, ça n'aurait pas dû se rendre là?
Ben, je sais pas, par exemple. On dirait que je trouve que c'est... Parce que je trouve que tu as le droit d'être insulté d'un gag, tu as le droit d'actionner quelqu'un. C'est là que je te dis que si ton gag, tu réfléchis pas, tu peux pas te cacher sous le deuxième degré constamment, tu sais. Mais je pense qu'on propulse des choses quand même des fois des contextes. T'sais, moi, tout ce qui est culturellement parlant, on dit un artiste a dit ça, un auteur a dit ça dans un livre. Mais moi, là, j'aimerais ça lire le livre au complet, lire le chapitre. Parce que cette phrase-là, exemple, dans l'auteur a dit ça. OK, dans quel chapitre? Dans le cadre de quel livre? Dans est-ce que c'est de l'ironie? Mais là, toi, tu me sors la phrase seulement. Fait que là, le chapitre est totalement dans l'ironie, mais toi, tu fais juste me sortir la phrase, donc l'ironie est complètement enlevée. Donc ça a l'air d'un fait.
Ouais.
Tu sais, les gens se trouvent. Regardez, il a dit ça. Dans quel contexte? Où? Comment?
Mais là, ça m'intéresse parce que je veux qu'on aille là. Tu sais, la perception que les gens ont, on l'analyse aussi avec ce qu'on est. Puis, moi, j'ai l'impression qu'on manque un peu d'éducation, de connaissance, de culture pour faire le lien. Puis là, je veux faire un lien avec, tu sais, la région. On sait, dans la région, on est un des plus hauts taux d'analphabétisme fonctionnel. L'analphabétisme fonctionnel, c'est pas quelqu'un qui est pas capable de lire. Là. Les gens sont capables de lire, d'écrire, mais ils sont pas capables de comprendre un texte complexe.
Les informations qui se donnent.
Les informations, etc. Est-ce que ça peut avoir un lien? Parce qu'on sait que dans la région, il y a plein de super belles jobs, là, puis je veux zéro dénigrer ces gens-là, là, mais qui n'ont pas besoin d'avoir des études universitaires ou collégiales même. Et ça leur permet d'avoir des belles vies, des gros salaires, mais des fois, une moyenne compréhension de l'information parce qu'il leur manque peut-être des outils justement là, pour bien comprendre des textes complexes. Est-ce que ça peut avoir un sens? Est-ce que tu le vois, ça, toi, Sam?
Oui, ben oui, définitivement. Puis, tu sais, on revient à ce que tu disais plus de bonheur à un moment donné, au début de l'émission. Les gens ne lisent que le titre. Oui. Ben combien de fois, moi, j'ai vu quelqu'un en dessous d'une publication Facebook poser une question pour laquelle la réponse était dans le texte, tu sais.
Ouais. Mot pour mot.
Oui, exact. Alors, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas éducation pour comprendre ou s'y intéresser. Ils n'ont pas développé cet intérêt-là. Pourquoi? T'sais, c'est où qu'on a échoué? C'est-tu dans le parcours d'éducation? C'est-tu ailleurs? T'sais, la question est peut-être plus compliquée qu'il paraît.
Ben moi, en tout cas, en politique, là, moi je le vois très bien. Je veux dire, il y a des gens... Moi, mettons, avec les jeunes, je vais discuter sur un sujet de dire est-ce qu'on devrait baisser l'âge de vote à 16 ans? En général, là, les jeunes disent ouais, « à 16 ans, j'ai pas le bagage pour être capable de voter. »
Tu l'as peut-être pas dit non plus
si
à bien
je
penser.
Suis, non, mais c'est ça. Si je suis cette logique-là, là, moi, je connais du monde qui ont 70 ans, ça fait 50 ans qu'ils votent puis ils font pas la différence entre le provincial et le fédéral.
Exactement.
Donc, le problème est dans l'éducation. Moi, je fais longtemps que je milite. T'sais, quelqu'un aujourd'hui qui veut avoir un cours de citoyenneté de base, il faut qu'il soit en sciences humaines au cégep. Ouais. Pourtant, être citoyen, on est tous citoyens. C'est pas un cours qui devrait être au secondaire, ça, pour apprendre justement les rouages, comprendre notre système politique, est-ce que ça nous empêcherait, je dirais pas d'être moins con, mais de faire des analyses mais, plus
succinctes? Je sors peut-être un petit peu du sujet, là, mais moi, j'ai le sentiment que ça s'est dégradé de plus en plus parce que je regarde, mettons, les gens qui avaient le cours classique à SETS, c'est des gens qui étaient ultra cultivés, puis tranquillement, pas vite, ben, on dirait qu'on a nivelé peut-être par le bas. Je coupe peut-être un peu court, là.
Ouais.
Mais, tu sais.
Un bémol, là, ce que tu dis.
Oui, ben, c'est parfait, vas-y. Mais, vas-y.
Ben, c'est parce que, aussi, le cours classique, oui, mais aujourd'hui, on est beaucoup dans la décolonisation, déhiérarchisation de la pensée, puis le cours classique faisait complètement l'inverse.
Absolument.
C'est ce qu'on enseignait, en fait, c'est la pensée occidentale. Aujourd'hui, on essaie de penser le monde autrement. Fait que je trouve que il y a du bienfait à passer à d'autres choses. Maintenant, le d'autres choses n'est peut-être pas à la hauteur.
Exact. Moi, ce que je voulais dire, c'était la qualité de l'éducation qui était offerte, indépendamment, donc que tu peux être en accord ou non avec l'angle qu'on y donnait, tu sais, qui était très, comme tu te souviens, qui était très paramétré.
Oui, je le répète, Jean Cartier n'a pas découvert le Canada.
Non. Ben, t'as amené le vote tout à l'heure, tu sais, c'est vrai, on milite sur, on martèle l'importance du vote, mais on martèle pas l'importance de l'éducation. Un vote, ça vaut quoi? Si tu vas copier le vote de ton ami, si t'as lu aucune plateforme électorale, t'as écouté aucun débat. Moi, je voyais des gens dans le temps de Trudeau, ils votaient Trudeau parce que c'était le plus beau. Il écoutait lui, c'est le plus beau. Ben, il y a des beaux bas. Tu sais, OK, mais t'as pas écouté de débat. Et je trouve qu'à l'école, moi, je le voyais quand j'ai enseigné le français un an, tu sais, qu'on enseigne dans un texte. Quand l'information n'est plus littéralement présente, tu sais, je donnais l'exemple de, ils comprennent mal l'information directe et indirecte. En ce sens que si j'écris Simon est content, ils le comprennent. Puis même là, il y en a peut-être qui vont l'échapper quand même, malheureusement. Mais si j'écris Simon a un sourire affiché sur le visage, il entre chez lui, il chantonne une chanson, il fait la vaisselle et il danse. Et là, je vais leur dire, comprenez-vous que Simon, il est content, même si c'est pas écrit. Simon est content. Puis il y en a qui, non, pourquoi vous le dites pas? Mais c'est ça, là. Un texte a beaucoup d'informations indirectes. Et c'est là que les analphabètes fonctionnels, comme tu dis, vont lire le texte. Mais toutes ces informations-là vont passer. Ils vont se perdre un peu parce que je voulais dire Simon est content, mais j'ai utilisé une figure de style et là... C'est terminé. Il y a de l'information qui se passe. Moi, j'avais un texte qui me dit que je fais une blague avec ça dans mon spectacle, mais c'était les animaux du désert. C'était la vie dans le désert, le texte. Et il y avait deux paragraphes qui distinguaient clairement la vie animale de la vie végétale. T'sais, c'était ça le but un peu du texte. Les plantes dans le désert et les animaux dans le désert. Et il y a un jeune qui était très sérieux qui me demandait, les animaux, M. Simon, c'est-tu les plantes? Puis tu sais, j'étais comme, oui, mais... Je sais comme pas, quoi. Dans ma tête, j'aurais quasiment rien envie de dire. C'est un bien niaiseux, ça. Mais non, après ça, c'est de me dire, OK, ce jeune-là, peut-être des tu sais, il n'y a pas des parents qui s'impliquent également dans l'éducation. Fait que bref, j'étais comme, OK, mais pour moi, c'était comme, voir que tu peux pas, ça peut pas être plus clair. La vie animale, la vie végétale, c'est très distingué, mais pour lui, c'était pas clair. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Effectivement, les gens... Puis, quand tu parles d'éducation citoyenne, moi, je ne suis on ne peut plus d'accord. Pensons aux jeunes qui vont seulement aller... Tu sais, je trouve que l'éducation est rendue beaucoup au service de l'entreprise et non pas au service de la pensée. Plus tu vois, beaucoup, il y a encore à l'université, tu sais, on forme des employés.
Puis il y a une certaine lutte anti-intellectuelle aussi au Québec. Là.
Oui,
quand tu essaies d'élever le niveau, des fois, j'ai l'impression qu'on essaie de te ramener. Moi, je le vois dans mes classes, mettons, il y a un petit jeune là, qui connaît tout, là, il lève la main, il répond aux questions. Là. Rapidement, tu le vois dans le non-verbal, il lève la main, là, tu fais comme...
Être bolé à l'école, c'est pas cool. Lui,
quand au contraire, on devrait faire hey, « Wow, comment ça fait que tu sais ça? Bravo, c'est le fun! » Mais non, on veut niveler les gens vers le bas pour qu'ils soient à notre hauteur au lieu de s'élever. Moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans, là, non?
Ben, je trouve que oui. Puis à l'école, tu le vois encore. Hey, lui, c'est un bolé. Puis c'est pas bien. Moi, je leur dis tout le temps. Moi, si vous me dites que je suis un bolé, je vais vous répondre merci beaucoup.
Ouais.
En ce sens que vous dites que ce jeune-là a des capacités intellectuelles supérieures, selon ce que vous dites. C'est très bon, ça, la gang, avoir des capacités intellectuelles supérieures. C'est ça que tu veux viser. C'est ça que je leur dis. Être bolé, ça devrait être votre, grosso modo, votre objectif et non pas. N'est pas votre objet. T'sais, c'est mal vu parce que le terme est péjoratif. Mais ce qu'on comprend, c'est que vous dites que ce que jeune-là, vous le sentez intelligent. Qu'est-ce qui vous menace là-dedans? Des fois, je le demande. T'sais. Ben, c'est ça, c'est-tu de la jalousie? Parce que tu sondes un peu en toi. Il n'y a pas de sens à dire « t'es intelligent » puis rire de ça.
Mais on dirait que là, c'est clair, mais quand on vieillit, on fait la même chose, mais on ne s'en remet pas en question.
C'est vrai.
Puis tu sais, en filigrane de tout ça, oui, peut-être que l'éducation qu'on reçoit n'est pas à la hauteur du point de vue de la citoyenneté, mais pourquoi les gens ne développent pas l'intérêt de vouloir s'informer et de vouloir apprendre?
Parce qu'on
en parlait un petit peu avant l'émission, les gens s'informent de façon très passive généralement. Les gens qui font l'effort d'aller vers un site d'information, d'aller, bon, je vais aller voir ce qu'il y a sur la presse, je vais aller voir ce qu'il y a sur Radio-Canada, je vais aller voir ce qu'il y a sur le Nouvel Hebdo, idéalement. Mais moi, je fais l'effort de le faire. Bon, évidemment, c'est mon métier, mais je le faisais avant d'être journaliste. Mais les gens le font de façon passive. Ça passe dans mon fil Facebook. Ah, peut-être que ça m'intéresse, peut-être que je vais cliquer. Alors, pourquoi... C'est où dans l'équation qu'on l'a échappé, que les gens n'ont pas le goût de savoir plus que ce qui se passe dans leur société, dans leur voisinage, dans leur... dans leur collectivité.
Ouais. Puis il y a beaucoup de métiers qui ne s'apprennent pas à l'école. Moi, je pense aux jeunes qui vont seulement aller chercher un secondaire 5, exemple, ou après ça un DEP ou des choses comme ça. Ce qui n'est aucun problème. Par contre, quand tu vas chercher un DEP ou après ça, tu te mets à travailler dans une job que tu vas appris à ta job et non pas à l'école. Tu deviens vendeur. Tu n'as pas appris de devenir vendeur à l'école. C'est ton, tu vas te faire former par un vendeur et tout ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses, ce que tu as appris à l'école, de connaissances, non pas la sociabilité des acquis sociaux. Il y a beaucoup de choses que les maths, là, tu vas tout tasser ça. Tu ne te serviras plus jamais de ça. Fait que, tu sais, versus un cours de citoyenneté, un cours de politique, comment ça marche, les impôts? Des choses comme ça, que quand tu sors du secondaire, tu aucune idée de ça. Ça, tu t'en servirais toute ta vie.
Mais quand tu sors secondaire, on veut que tu saches ce que tu vas faire dans la vie, où tu vas t'inscrire, mais tu n'as pas le droit d'aller t'acheter un paquet de cigarettes au dépanneur. Tu sais, dans le sens, on veut de responsabilité sur des affaires, mais pour le reste, des fois, c'est
quand est-ce qu'on sert de Pythagore? Je comprends, tu peux pas en train de dire annulons tout, mais dans les faits, il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école, que dans les faits, si après ça, tu sors de là, tu n'es plus dans le système scolaire, c'est un peu mort. Tu sais, le permis de conduire, pourquoi ça ne rentre pas à l'école, ça, des cours de conduite? Tout le monde chauffe un char, personne ne fait de l'algèbre. En ce sens, il y aurait quand même une rééducation à avoir que quand tu penses à ceux qui... Parce que les scolarisés, les intellectuels, ceux qui le sont, vont pas arrêter. Ils vont y aller d'emblée. Ils vont... Il y en a qui vont d'emblée être attirés par les mathématiques. Par contre, le jeune qui a de la difficulté, qui est sur le bord de décrocher, on peut-tu y en enlever un peu de mathématiques
de à faire ce jeune-là?
L'intéresser ailleurs. Ouais. Je trouve qu'il y a un tronc... Mais on n'a pas les employés, c'est toute une autre affaire. On n'a pas les employés. Mais il devrait avoir... On devrait arrêter de faire un genre de gros tronc commun, puis faire un genre de tronc commun de 2 ans, puis après... cibler un peu plus les jeunes, à dire, toi, les maths, c'est pas ton domaine, on te fera pas décrocher avec ça, on va t'enligner plus.
Avant l'algèbre, là, tu sais...
Une base, entendons-nous, ben oui, calculer les fractions, des trucs. Oui, mais quand tu tombes dans trigonométrie, dans l'algèbre, dans factorisation, c'est des choses que si tu vas pas en sciences, tu utiliseras jamais vraiment ça de ta vie. Moi, je trouve qu'il y a des choses qu'on devrait... inculquer aux jeunes comme la curiosité intellectuelle, des cours de réseaux sociaux, des trucs comme ça qu'on devrait peut-être au moins rentrer dans le système.
Parce qu'être citoyen, on est tous citoyens.
On est tous
la
citoyens.
Politique va tous nous toucher à quelque part.
Mais on n'est pas tous scolarisés, on n'est pas tous universitaires.
Juste pour faire un peu de pouce sur ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai fait un bac en sciences politiques, puis j'ai suivi mon premier cours de politique à l'université. Parce qu'au cégep, il n'y avait pas rentré à mon horaire.
Pour vrai.
Fait que j'ai fait un bac en Sciences Po, puis j'ai fait mon premier cours de Sciences Po à l'université.
S'il y a quelque chose à normal.
Ben, t'arrives à 18 ans, tu vas
arrêter quoi d'en avoir un au secondaire, tu sais?
Puis toi, quand t'écris, par exemple, là, puis tu vas parler d'un concept comme du mode de scrutin, vas-tu commencer à l'expliquer, choisir tes mots pour t'assurer que la majorité puisse
comprendre? Je vais essayer d'écrire avec une approche pour monsieur, madame, tout le monde. Parce que les grandes dissertations académiques, ça intéresse peu de gens. Nous, on se donne, chez nous en tout cas, on se donne comme mandat de faire des textes relativement courts, c'est-à-dire 2200 caractères, rentre-toi 2500 si tu veux, mais la grande tartine là, de 3500 caractères là, que le lecteur ne lira pas.
Non, peut-être que le lecteur, c'est premier, deuxième paragraphe.
Le lecteur, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde la photo, ensuite il va regarder le titre, ensuite il va regarder le bas de vignette en dessous de la photo, puis ensuite il va commencer à lire le premier paragraphe, ce qu'on appelle le lead dans le jargon. Puis après ça, s'il est encore intéressé, il va peut-être se rendre un peu plus loin. Enfin, tu sais.
Je fais du pouce sur ce que tu dis. À l'école, je l'ai vu aussi, l'instantané. Ouais. Les jeunes sont sur... Tu sais, quand ils scrollent sur TikTok, sur Facebook, les vidéos durent 17. Tu sais, je pense qu'en une heure, exemple, ma belle-fille peut voir, quand elle scrolle en une heure, peut-être avoir 150 vidéos. Tu sais. Une vidéo de 3 minutes, elle n'écoutera pas ça. Là, tu sais, dans le sens que ça va extrêmement vite. Et moi, je voyais des jeunes, exemple, la question d'examen, c'était... souligner les noms, point, et encercler les verbes, par exemple. Eux autres, ils voyaient souligner tous les noms, passer à la question suivante. Ils terminent même pas la phrase. Ils sont en... Moi, j'étais comme là, les gars, je vous autorise pas d'arrêter une phrase tant que vous avez pas vu un point là-dedans. Là. Là, maintenant, là, c'est... Mais parce que tu vois, ce qui est choquant, c'est qu'ils auraient entouré les verbes. Ce jeune-là n'est pas idiot, là. Mais lui, souligner les noms.
Alors, on est tellement bombardé. Bon, c'est facile de mettre toujours la faute sur les médias sociaux comme si c'était le plus grand mal de l'humanité. Oui. Ils ont beaucoup de bons côtés aussi. Là.
Ben oui.
Mais tu sais, on est tellement devenu bombardé de contenu de toutes sortes que, en quelque sorte, c'est comme ça. On est devenu un peu paresseux intellectuellement. Ouais. Puis bon, ben le contenu vient à moi, puis tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionné parmi le lot.
Tu mais penses-tu que les chaînes de télé en continu, ça...
Moi, je pense que ça a été un problème.
Ben, moi, je pense que c'est un problème
parce que là...
Quand il y a une nouvelle, c'est rendu qu'il faut créer du contenu tout le temps. Un peu exact. Comme la journée des échanges au hockey où il se passe fucking rien, mais ils sont en onde depuis 6 heures le matin à faire des propositions d'échange.
Exact.
Je veux dire, on crée du faux contenu à quelque part à venir interviewer le
l'autre. Ça a créé aussi une attente d'instantanéité chez le lecteur ou l'auditeur ou peu importe. Puis là, il faudrait toujours être le plus rapide à y donner quelque chose rapidement, là, mais en dernière instance, quand tu t'arrêtes à y réfléchir, il n'y a personne qui est assis sur le bout de sa chaise à attendre, à faire refresh devant son ordinateur là, pour être sûr d'avoir le texte qui va rentrer pour y parler de la conférence de presse de telle affaire. Là, tu sais, là.
Ouais.
Est-ce qu'on a si besoin que ça d'être dans l'instantanéité? La réponse est non. Puis moi, j'aime mieux avoir un contenu qui met peut-être plus en faire le contexte, là, que d'avoir quelque chose qui fait que me dire « bon, mais voilà ce qu'il y en est là, là ».
Ouais.
Est-ce que tu trouves que le contenu est un peu devenu, l'information est un peu devenue spectacle, est un peu, il y a quelque chose, moi je parlais des politiciens l'autre fois, je trouve ça un peu absurde que, tu sais, un politicien ne devrait pas, tu fais toutes tes choses en fonction d'être populaire, alors qu'en les faits, tu devrais dire ce que tu crois, puis ceux qui embarquent dans le bateau embarquent pas, il rendait qu'une joute de je dois être populaire, je dois être spectacle.
Ouais, il y a beaucoup de communication et marketing. Puis, tu sais, moi, la blague, je dis souvent qu'il doit y avoir 10 conseillers en communication pour un journaliste. Tu veux réussir à parler à quelqu'un, il faut que tu t'en ailles dans un département des communications.
Tout est formaté, passé par des
fils de communication. Il y en a des bons conseillers en communication, j'en connais, qui vont faire un bon travail puis qui vont te donner l'information que tu vas obtenir. Mais en dernière instance, moi, je ne veux pas parler au conseiller en communication. Je veux parler aux fonctionnaires ou je veux parler aussi ou ça. Mm-hmm. Mais bon, on a formaté toute l'affaire. Là, puis on nous sort des déclarations. Il y a des grosses entreprises, Rio Tinto, pour ne pas la nommer, que tu lis leur communication. Tu fais, mon Dieu, on est dans le verbiage là, puis on ne dit pas grand-chose.
Ouais.
Puis ça, c'est... Moi, tu as parlé des grands mots tantôt. Moi, des fois, j'écris un texte, peu importe, puis il y a des gens qui vont me dire ça, tu sais. Ah, ce mot-là, tu ne trouves pas que c'est un peu trop. Moi, je suis comme, mais les gens le chercheront dans le dictionnaire.
Ben oui.
Exact.
Mais les gens ne font pas ça. C'est ça qui est... Moi, j'aime ça quand je lis un auteur. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens, des fois, que même des amis, à moi, ils lisent un livre, puis je ne vois jamais, tu sais, je fais, tu n'es jamais dans le dictionnaire. Ah, oh, mais tu sais, quand je vois un mot, je ne connais pas, je vais dans le sens de l'affaire. Moi, je ne fais jamais ça, j'aime ça. Je fais, hey,
ben, de comprendre ce qu'est-ce qu'il
pourquoi
veut
dire. Pourquoi ils utilisent ce mot-là? Je ne suis pas sûr de. Vraiment, le dictionnaire. Moi, je trouve ça le fun. Ben oui. Effectivement, les gens. Puis même les gens, des fois, le dictionnaire, c'est là. Ouais, mais aujourd'hui, Google, définition, tel mot, t'en as un dictionnaire.
Ouais, moi, je suis un fan de Nicolas Bouvier, puis ce que j'aimais être dans ses trucs, c'est que, dans ses écrits, c'est qu'il voyageait beaucoup, puis quand il dit, bon, ben là, telle personne utilisait un doudouk, dis pas c'est quoi. Là, ça m'a tellement éduqué sur le monde, en fait, sur les cultures un peu de partout. Je trouve que c'est intéressant.
Ben, moi, je dis souvent à ma blonde, à l'ère de l'Internet, il n'y a pas de raison qu'on laisserait une question sans réponse.
Ouais.
Si on est dans les choses de fait là, pour lesquelles il y a une réponse, ben on va le googler puis on va la trouver. La réponse, ça va prendre 3 minutes puis on va avoir acquis une information. T'sais.
Moi, je dis souvent ça aussi. Ma fille, elle me demande pourquoi on appelle ça de même? D'où ça vient telle affaire? Je ne sais pas, mais on va le trouver. T'sais.
Exactement.
C'est important.
Ça a enlevé, je pense, d'un party d'avant. Tu te rappelles, quel âge qu'il y a pas là? Ah, ça, elle est 7, pas là, il y a 100, le 5, il est né. Ben là, on n'avait pas ça avec ces questions-là. C'est comme pas là, il y a quel âge? Il y a des débats avant d'un party ou tout ça. Ouais. Je trouve qu'avant l'Internet, c'était long pour rien parce que c'était une information factuelle qui aurait pu se vérifier. Ouais. Mais on vérifiait ça où? L'encyclopédie.
Rapidement, on a presque terminé. Quel conseil vous donneriez aux gens pour mieux s'informer? Moi, le conseil que je donne, c'est de valider. T'sais, que tu vois une information, toujours trouver une autre source qui en parle parce que sinon... Puis si tes sources, c'est des sites obscurs, t'sais, dans le sens, les médias d'information... Ils font une job honnête.
C'est un .com, .ca, tu sais, des points .exe.
Là, des points .co, des fois aussi, là, c'est pas des sites d'information, en tout cas.
Puis généralement, quand on voit une information qui provient d'un site qu'on ne reconnaît pas, c'est assez facile, règle générale, de faire une recherche puis de trouver que ce site est dans tel répertoire qui est reconnu pour transmettre de l'information d'extrême droite, par exemple.
Okay.
Là, tu fais que tu peux faire, ouais, OK, je suis peut-être mieux de prendre ça avec des pincettes.
Okay. Puis aussi, des fois, valider l'expertise des experts. Là. Je voyais un truc dans le temps des complotistes, là. Un docteur a dit telle affaire. Là, tu regardais, écoute, c'est un docteur en géographie, je veux dire, son intérêt sur la vaccination, On peut se poser des questions, là. Non, je sais pas, là,
ouais, non, mais le gars, c'est un kiné, là. C'est pas un médecin.
Ouais, ouais, non, mais c'est ça, là. Fait que, il y a des trucs. Mais je pense, des fois, faut un peu peut-être valider l'expertise des gens.
Mais moi, le conseil que je donnerais, en fait, à poser cette question-là, ça serait humilité et doute. En ce sens, doutez de vous aussi. Doutez pas juste des autres.
Ouais.
Tu sais, placez-vous. Moi, je voyais de l'électorat, exemple, je parle du Parti conservateur, mais j'ai vu beaucoup de gens frustrés par les mesures sanitaires, tout ça, qui se sont calfeutrés dans le parti de Rick Duhaime, en prenant tout ça pour acquis un peu, tu sais. Puis ce qui m'inquiétait des fois, moi, tu sais, je dis l'humilité. Moi, dans la vie, j'ai un bac en littérature, je suis un humoriste, je suis pas scientifique. Je connais ma place, en ce sens que je suis qui pour donner mon opinion. Exemple, quand on était à la vaccination, sur l'immunité, sur la biologie, sur les choses de scientifiques, les microcosmes qu'il y a là-dedans, je suis qui pour... Je ne peux que me fier aux gens qui ont pris du temps, qui ont étudié là-dedans. Je vais pas aller contre... à l'avance. Fait que c'est ça qui est inquiétant, ouais. De me dire, ces gens-là, ça, ils connaissent pas leur place. C'est des experts de tout, on dirait, à les entendre parler. Doutez de vous, pas juste des autres, c'est ça?
Oui, oui, puis moi, je vais même...
pas aller... juste douter de vous, mais de faire confiance en vos moyens.
Mais moi, je vais même aller plus loin que toi, je vais dire, doutez davantage des informations qui viennent conforter vos positions. Mm-hmm. Parce que quand tu vois de quoi, puis tu fais, ah, ça fait sens, c'est là que tu devrais douter. Parce que quand tu fais, mais voyons donc, en partant, tu doutes déjà, donc tu vas essayer de trouver des contre-arguments. Mais quand ça vient de conforter, des fois, ça peut être aussi de la fausse information. Mais
une société, c'est ça. Tout le monde a sa zone d'expertise. Tu ne peux pas être expert en tout. Fais confiance aux gens qui ont décidé d'étudier une branche et de te livrer ces informations-là. T'sais.
Et c'est pour ça que je vous ai fait confiance aujourd'hui pour en parler. Merci, messieurs. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Je pense que c'était très agréable. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.
La littérature régionale n'est pas une ligue de garage. Cet automne, nous vous faisons rencontrer quelques-uns de nos créateurs et créatrices reconnus à travers le Québec ou amateurs, mais tous et toutes littéralement d'ici.
Richard Hébert. J'animerai cette année l'émission Accès MRC, où nous rencontrerons différents intervenants de la MRC Marrière-Chapdelaine et de l'administration municipale. Merci et à bientôt.
Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue les maniaques de jeux de société parce que vous demandez hey, mais comment ils font pour aimer ça? Ben venez avec nous, venez dans notre cool box. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux.